vie en nomade. Le direct.
Bienvenue sur les ondes de Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. En direct jusqu'à 16h30 depuis le studio de Pavillon Nomade, en compagnie de nos participants du jour, on a Eléa, on a Phyllis, on a Émilie, on a Marie, on a Daniel, on a Christophe, on a Eliane et à la technique, on a Pascal Vigolo. Et à côté de moi, on a notre invité du jour, Johnny, qui est là. Et on va échanger sur différents thèmes proposés sans oublier de passer par notre chronique habituelle, la ménagerie d'Elian. D'ailleurs, je vous en dirai un petit peu plus à la fin par rapport à la ménagerie d'Elian et la reprise de notre deuxième chronique iconique, les rencontres du Marie-Claude. Bonjour Eliane.
Bonjour Jimmy, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous. Eliane, aujourd'hui, c'est une grande première.
Oui, aujourd'hui, j'essaye d'évoluer dans la radio.
Alors, évoluer dans la radio, c'est au-delà de ça, c'est au-delà d'évoluer parce que vous évoluez avec nous déjà depuis quelques temps. Ça fait combien d'années que vous êtes avec
je
nous
pense. Je pense que ça fait une année à
on
peu près.
On arrive à une année.
Il me semble.
Et pour fêter cette première année, après avoir proposé des chroniques, aujourd'hui, vous testez à l'animation. Bienvenue dans ce monde de l'animation. Alors, je vous rassure, Eliane, on est ici pour passer un bon moment. Si vous buguez, si je bug, si nous bugons, et là, je m'adresse aussi aux participants, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de passer un bon moment. Je vous propose qu'on commence avec votre rubrique.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Aujourd'hui, je vous emmène en voyage dans le monde extraordinaire des fourmis. Dès le mois de novembre, elle s'épanouit à l'abri des regards pendant 5 mois. Ce royaume minuscule est doté de grands pouvoirs et commence à chaque début du printemps. Les fourmis ouvrières font les affronts ou le ménage, évacuent les congénères ou tout déchet qui n'est pas désiré dans la fourmilière. Rien ne se fait seul. C'est une unité. Elles travaillent toujours à plusieurs. Leur organisation est millimétrée. Après cette période dans l'obscurité la plus totale, une fourmilière reprend doucement la vie, sans se douter des défis qui l'attendent. Elle existe depuis 120 millions d'années, donc bien antérieure aux dinosaures. La douceur printanière révèle une nature foisonnante. Une colonie de fourmis a décidé de s'installer au milieu d'un hameau. Quelques fourmis affrontent le monde. Elles vont se gorger de soleil. Leur corps se réchauffe pour diffuser un peu de chaleur à toute la colonie. Les fourmis des profondeurs ne pourraient pas se réveiller seules. Et la magie opère, les corps se dégrippent et les cerveaux se réaniment. Sans perdre de temps, ces petites fourmis vont au centre de la fourmilière où il y a la chambre royale, car la reine des fourmis est à la fois la fondatrice de l'avenir et la seule à pondre des larves, à partir de 20 degrés. L'accouplement de la fourmi se fait en vol. Oui, les fourmis ont, pendant quelque temps, des ailes. Elles rencontrent un mâle et s'accouplent. Alors le mari, enfin, ou le mâle, lui c'est quick, il meurt. Et elle va perdre ses ailes. Et ce qui est important aussi, c'est que la fourmi a besoin d'être accouplée qu'une fois, et pour toute sa vie, elle pourra produire des larves. Comment devenir une reine ? La reine, en fait, c'est une fourmi qui est, comme il faut dire, un leader, la plus forte, qui sera nourrie par les fourmis, les autres, et ça déclenche une production d'hormones qui l'oriente vers son statut de reine. pour communiquer. Elles disposent d'antennes et des phéromones pour tracer une piste de nourriture ou une piste d'alarme avec une substance fabriquée par elles-mêmes. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, je vois que ça vous laisse tous un peu sans voix, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, les fourmis ?
Le travail.
Alors, prenez seulement le micro.
Moi, les fourmis, ça m'a toujours porté vers le travail. Parce qu'on dit les fourmis travailleuses, les fourmis ci, les fourmis ça. Ça, j'ai toujours fait un lien entre le travail et les fourmis.
Oui, c'est tout à fait correct, Jody, parce qu'il y a beaucoup plus d'ouvrières que de... Par exemple, ils mettent des gardes. Des fourmis gardiennes, si on veut, pour pas qu'elles soient envahies par d'autres insectes. Et les ouvrières, elles vivent 2-3 ans. Dit que la reine, elle peut vivre jusqu'à 25 ans, vu qu'elle fout rien. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, je croyais que chaque année, la fourmilière se renouvelait. Mais en fait, pas du tout. Elles peuvent rester des années dans la même fourmilière. Et dans les grandes colonies, il peut y avoir deux reines. Quand il y a 30 000 ou 50 000 individus, il y a deux reines. Par contre, les ouvrières ne travaillent que pour leur reine. Voilà ce que j'ai envie d'ajouter. Je vous propose maintenant d'écouter une...
Alors, juste parce que c'est vrai que avant que vous passiez à la musique, il y avait quand même une question qui me turlipinait. Est-ce que vous connaissez le livre de Bernard Werber sur les fourmis ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu ?
Alors moi je l'ai lu aussi.
Alors on va peut-être.
J'ai pas vu.
Non mais faites seulement.
Alors en fait oui je l'ai lu relu plein de fois et ce livre vous permettra de ne plus jamais écraser une fourmi dans votre vie.
Eh ben merci pour ça. Alors on va laisser la parole aussi à Eric. Eric bonjour.
Bonjour à tous et toutes.
Eric, alors je ne veux pas faire de spoil, mais qu'on va bientôt retrouver dans quelques secondes d'ailleurs, dans les rencontres de Marie-Claude. Ça fait plaisir de vous avoir ici, Eric, en direct à Pavillon Nomade. Je me réjouis aussi de cette chronique de Marie-Claude. Le livre Le Fourmi, vous l'avez lu ?
Oui, les trois volumes, puisqu'il y a Fourmi, La Révolution des Fourmis, enfin il y en a trois, je ne sais plus. Le plus intéressant, j'ai trouvé que c'était quand même le premier. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Werber, à la base, il était biologiste. Donc, en fait, c'est un roman. C'est vraiment... il a inventé certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la vérité de la biologie des insectes. Et on apprend énormément sur les insectes. Comme vous l'avez dit, les insectes travaillent énormément avec les phéromones, ils communiquent avec les phéromones et se reconnaissent à travers ça. Et j'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant.
Moi, je partage tout à fait votre avis parce que j'ai lu les trois, bien sûr. Mais moi, c'est le premier, comme vous, qui m'a interpellé. Après, je trouve que c'est un peu du réchauffé.
C'est ça. Et puis, il a voulu peut-être trop en faire également. Mais effectivement, et au-delà de ne plus écraser une fourmi, je vais même plus loin, je défends le plus d'insectes possible.
Je comprends, tout à fait, pour moi c'est pareil.
Parce que les abeilles, les guêpes ont un rôle aussi dans ce roman.
Bien sûr, bien sûr.
Les mouches, etc., les scarabées.
Alors c'est vrai, Bernard Werber, 1991, hein, le premier tome, après vous l'avez bien dit, on a eu le deuxième, c'était Le Jour des Fourmis, La Révélation des Fourmis, c'était
la
le troisième.
La
Révolution, pas la Révélation. Révolution,
révélation
voyez, comme quoi,
ça va aussi.
Dernier,
hein.
Révolution.
Qui était dernier. Alors c'est un roman assez culte, hein, parce qu'on décrit une double narration entre le monde des humains et celui des fourmis, une approche très documentée, biologie, organisation sociale des fourmis, des thèmes chers à Werber, intelligence collective, communication. communication, pouvoir et conscience. Et il y a une citation qui m'a toujours un petit peu donné de la force, c'est « La force de la fourmi est dans le groupe ».
Alors absolument, c'est, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, une fourmi toute seule, elle ne peut pas vivre. Mais par contre, ensemble, on est plus fort, on pourrait dire, par rapport à cette maxime, parce qu'elles sont... elles peuvent pas porter des feuilles toutes seules. Si on voit des fois dans des documentaires, elles sont une vingtaine pour porter une feuille. Parce qu'elles sont pas bien grandes, nos petites fourmis. Hein.
Elles sont pas bien grandes, mais elles portent des poids...
incroyables.
Incroyables, hein, d'une force incroyable. Eric ?
Apparemment des poids qui vont de 2 à 3 fois leur poids propre. Donc c'est assez incroyable.
Alors c'est incroyable, on parle d'intelligence sociale, on parle de force, mais moi je parle aussi d'agacement, hein, parce que je ne sais pas si pour vous autour de la table, mais moi fourmi ne rime pas qu'avec tout ça, ça rime aussi avec embêtement, parce que je ne sais pas vers quelle période elles sortent de leur...
En printemps,
et on les suit à la trace dans la maison, on est envahi, alors je ne sais pas qui... je vois que Marie, vous étiez en train de hocher la tête, parle-nous un peu de votre expérience et de ces fourmis à la maison.
Moi, j'ai vécu un peu à l'étranger. Et en fait, à l'étranger, on avait une grosse problématique. C'est qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fourmis. On n'avait aucun moyen de les enlever. Et donc, du coup, je dormais avec...
Des fourmis.
J'avais mis mon matelas, enfin mon lit, je l'avais mis avec les pieds dans l'eau. Donc, j'avais mis des verres d'eau. Puis, j'avais mis les pieds dans l'eau. C'était le seul moyen que les fourmis ne dorment pas avec moi. Voilà.
Bah c'est déjà, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des expériences avec cette cohabitation et les fourmis à la maison. Alors, parce que souvent, on doit utiliser des répulsifs pour les faire partie. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait peut-être des petits tips plus naturels que ces faux petites boîtes qui viennent finalement détruire la fourmilière, Eric ?
Alors, il y a une chose essentielle pour éviter qu'elle envahisse la maison et surtout qu'elle choisisse des chemins, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des exploratrices qui sont envoyées et puis elles repèrent de la nourriture. Ensuite, elles reviennent, elles avertissent les autres et puis là, s'enclenche un chemin vers la ressource de nourriture. Et l'idéal, c'est d'essayer de ne pas laisser de nourriture ouverte ou accessible aux fourmis, en fait. Parce qu'elles vont venir au début, au printemps, comme vous le disiez, elles vont venir explorer la maison. Et puis ensuite, si elles ne trouvent rien, elles vont s'en aller. Mais si elles trouvent quelque chose, se met en route le manège des fourmis qui viennent recueillir. Alors si c'est du sucre, c'est encore pire. Et voilà. Donc presque le secret, finalement, c'est d'essayer de mettre notre nourriture dans des récipients et de faire régulièrement le ménage pour ne pas laisser traîner...
La chasse aux fourmis.
Voilà. Mais effectivement, moi, j'essaie de les laisser. Si vraiment elles viennent envahir l'appartement, je cherche la source et j'élimine la source de nourriture. Et en général, 1 ou 2 jours après, elles disparaissent.
Et c'est vrai. Je vous propose maintenant d'écouter une chanson d'Aretha Franklin. Respect.
Just a little bit. Just a little bit. This love. Just a little bit. I ain't gonna do you wrong. Why?
Retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette magnifique musique, il est 15h45. Respect, alors oui, on doit respecter nos petites fourmis et tous les animaux, mais après ce titre fantastique et cette chanteuse incroyable, on accueille Johnny. Bonjour Johnny. Alors, on va donner un micro à Johnny. Johnny, bonjour, bienvenue.
Bonjour, alors, bonjour à tous.
Johnny, aujourd'hui, vous nous avez proposé de faire un petit échange autour d'un artiste, un autre grand artiste, une autre grande voix française. De qui allons-nous parler ?
De Johnny Hallyday.
Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et un petit peu dans son, peut-être dans son histoire et dans sa biographie, déjà, qu'est-ce qui fait que vous nous proposez aujourd'hui ? J'imagine fan, parce que pour les auditeurs qui ne nous voient pas, Johnny est un habitué de la radio, mais il est aussi fan du FC Sion, apparemment, parce que je vois qu'il y a le col du FC Sion, de l'équipe suisse. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose comme ça en termes de fan, ou je ne me trompe pas, notamment par rapport
non,
à Johnny ?
Non, je suis vraiment fan de Johnny... Depuis l'âge de 16-17 ans, je pense. J'en ai 62 maintenant. J'ai le même prénom que lui parce que j'ai un frère qui a 20 ans plus que moi, qui était déjà fan en 64 de Johnny Hallyday. Et quand je suis né, je suis issu d'une famille de 7 enfants. Si c'était une fille, c'est les filles qui choisissaient le prénom de la petite sœur. Et, et si c'était un garçon, c'était le grand frère qui choisissait le prénom du petit frère. Et Mario, qui est décédé il y a 8 ans, mon frère, a décidé de me donner le prénom de Johnny.
Bah, merci déjà pour ce préambule. Votre souvenir de votre toute première découverte de Johnny Hallyday, c'était quelle chanson ? Vous en souvenez un
peu ? Ah oui, ça c'est... Je pense qu'il y a 90% des personnes ici dans cette salle qui la connaissent, les Portes du Pénitencier.
Ça, c'était la première chanson que vous avez entendue ?
C'est une des premières chansons que j'ai entendues de Johnny. Oui.
Vous vous souvenez du contexte ?
C'était les prisons américaines.
Alors, on pourrait parler du contexte de la musique, mais non, au moment où vous l'avez découvert, c'était à la radio ? Est-ce que c'est un proche ?
C'était à la radio, oui.
Et vous avez écouté la chanson et vous avez été pris émotionnellement
par... J'ai été pris par cette chanson, oui.
Alors, qui est ce fameux Johnny Hallyday ? Peut-être qu'il y a des gens autour de la table, des plus jeunes d'ailleurs, hein, je ne sais pas, on verra après, on ira à l'exploration de voir qui c'est qui écoute encore aujourd'hui.
Rassurez-vous, c'est Madame Nicoletta qui m'a sorti la biographie de Johnny, mais je pensais qu'elle serait beaucoup plus fine, mais je vais juste vous lire une page qui résume pratiquement toute sa biographie.
Ah bah alors, on vous écoute Johnny.
Alors... Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, né le 15 juin 43 à Paris, 9e Seine, mort le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, Haute-Seine. Un chanteur, compositeur et acteur français, durant ses 57 ans de carrière, s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs français francophones et l'une des personnalités les plus présentes du paysage médiatique français. S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est, dès 1960, le premier à y populariser le genre. Bien qu'il interprète de nombreuses ballades sentimentales, des airs country au cours de sa carrière, le rock reste sa principale référence au travers des différents courants puissants, tout comme les origines. Le blues, le rock'n'roll, le rythme, le blues, le rock, le c'est dur à dire. Le psychédélique.
Le psychédélique.
Sauf ou encore rock. Je vais arrêter là parce que la suite, c'est beaucoup trop technique.
Bah alors, on ne va pas rester trop dans la technique, mais peut-être on va demander autour de la table, de nos participants, déjà, est-ce que il y a des gens qui ne connaissent pas Johnny Hallyday. Quand même, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Émilie, par exemple, vous qui êtes un petit peu... aujourd'hui, on est transgénérationnel, c'est ça qui fait plaisir aussi, la force de Pavillon Nomade. Émilie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissez Johnny Hallyday? connais ?
Oui, un petit peu, mais je ne connaissais pas toutes les... sa biographie, donc j'ai appris des choses. Merci, Johnny.
S'il y a une chanson que vous connaissez dans son répertoire, ce serait laquelle ?
Je ne sais pas, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai pas beaucoup écouté.
Vous ne connaissez pas, mais à la radio, vous avez entendu ?
Oui, j'en ai entendu parler, ouais, mais je ne sais pas le nom des chansons.
Alors, je ne sais pas autour de la table s'il y a d'autres personnes. Ah bah, Daniel. Daniel, alors, on va vous donner le micro. Daniel, vous allez nous mettre le feu à Pavillon Nomade. La musique, c'est
Allumer le feu de Johnny Hallyday. C'est une chanson que plusieurs personnes connaissent.
Et vous, elle représente quoi pour vous, cette chanson Allumer le feu ?
Elle représente, elle diffuse une énergie positive dans une soirée ou dans une journée ou dans la vie. Allumer le feu au lieu de l'éteindre. On a les gens qui nous enflamment et on a des éteignoirs aussi. Et lui, il défendait ceux qui allumaient le feu. Elle représente ça. Et puis, je voulais juste ajouter sur Johnny Hallyday que son moteur, c'était son enfance. Il a une enfance difficile. Il a été rejeté par son père et sa mère, élevé par sa tante. Ils étaient des saltimbanques. Et puis, il est devenu ce qu'il est devenu par une force intérieure qu'il a créée à ce moment-là. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Au début, si on écoute ses chansons, il n'a pas la même voix qu'actuellement.
Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, ça, ce que vous dites. Quelles seraient les hypothèses que sa voix ait changé ? Parce que c'est vrai, quand on entend les débuts dans les années yéyé et puis sur la fin, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il ait eu comme ça un changement si radical au niveau de sa tessiture, s'il me semble qu'on parle comme ça ? Alors, Daniel, est-ce que vous avez déjà peut-être une hypothèse ? Et après, on donnera le micro à Eliane.
Je pense que c'est son parcours de vie et puis son travail. Et puis aussi, je voulais rajouter qu'il y a parmi tous les artistes qui l'ont côtoyé, côtoyé de nombreuses célébrités et chanteurs, il était le plus gentil des garçons.
Ah bah ça, on voit en tout cas que ça vous met plein d'étoiles parmi les yeux. Eliane.
Oui, je voulais juste compléter ce que disait Daniel. Enfin, à la fin de sa carrière, si on peut dire, il est quand même tombé dans des vices, l'alcool, la drogue, donc ça l'a pas aidé vers la fin de sa carrière.
Ouais, alors c'est vrai, et Johnny, vous, à cette question finalement de comment sa voix a évolué dans le temps, il y a l'hypothèse de l'émotion suscitée, des rencontres, de la vie personnelle. On a une hypothèse qui est aussi celle de finalement des consommations de drogue, d'alcool, de tabac, hein, me semble-t-il, hein, que c'est ça. Mais vous, est-ce qu'il y aurait d'autres hypothèses qui pourraient expliquer ça ?
Par exemple, je reprends juste une ligne de la page. Il a donné 3425 concerts. Alors, je pense que les cordes vocales, elles ont dû prendre un coup.
Eh ben, vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la vie qu'on mène et des dépendances ou des consommations, mais je pense que c'est un organe, comme n'importe quel instrument, à force d'y jouer, au bout d'un moment, si on n'y fait pas attention, comme n'importe quel violoncelle, les cordes, elles s'abîment, comme n'importe quelle guitare, la peau, elle se flétrit. Effectivement, peut-être qu'après d'autant de concerts, et puis il y a les pas de main morte, hein, quand il disait allumer le feu, il criait dans le micro. Alors, pour certains, c'est beuglé, pour moi, je pense que c'est du chant, mais oui, je pense qu'il a peut-être mis à mal ses cordes vocales. Ouais, je pense aussi, vous avez raison. D'autres hypothèses, peut-être, autour de la table ? Allez, Eric ?
Ouais, comme tu l'as signalé, le tabac aussi a dû transformer sa voix. Et puis les excès, effectivement. Mais je crois que Johnny a vraiment raison. Hein, quand il... Et des moments, il criait ses chansons. Hein, c'était chanter, mais aussi crier. Et c'est vrai que ça peut aussi abîmer les cordes vocales. Ça nécessite effectivement de l'entretien comme tout instrument. Voilà, et puis sur toute une carrière, il a quand même pu tenir, même si sa voix s'est modifiée. Hein. Si on compare par exemple avec Renaud, qui maintenant, je sais plus s'il fait des concerts, mais il y a quelques années, il en faisait encore. Et là, on voyait vraiment une différence. Il n'arrivait plus à chanter. Après, c'était autre chose. Hein. On allait le voir pour autre chose. Mais voilà, Johnny a toujours pu chanter. correctement et la plupart de ses chansons. Donc ça, il a pu tenir sa voix jusqu'au bout.
Et aujourd'hui, on a encore un artiste qui fait vivre encore la mémoire de Johnny. Alors, pas que seulement à travers les albums ou toutes les plateformes sur lesquelles on peut faire du stream vidéo ou audio. On a un artiste qui reprend les standards et qui fait revivre sur scène l'émotion de Johnny. Est-ce que vous savez qui c'est ? Alors, Daniel, prenez le micro, parce que sinon, on ne vous entendra pas.
Merci, Jean-Baptiste Guégan, d'avoir repris certains disques de Johnny, parce qu'il chante en tant que Jean-Baptiste Guégan, donc il a aussi ses disques. Et c'est vrai qu'il y a eu un conflit avec David Hallyday, qui voulait représenter son père, mais qui malheureusement, face à Jean-Baptiste, n'a rien pu faire. Et maintenant, Jean-Baptiste remplit les salles. Et si on va dans un concert et on tourne le dos, on est sûr que c'est Johnny.
Ah, moi, j'ai vu des reportages de fans de la première heure et qui avaient les larmes aux yeux, suscitées par ce chanteur. Parce qu'à s'y méprendre, la voix, elle est quasi à une octave, à une tessiture près, la même. Hein. Moi, j'ai été bluffé la première fois.
Moi, c'est pareil. Je l'ai entendu à la radio. J'étais sûr que c'était Johnny Hallyday. Et non.
Ah oui, moi j'ai même eu un doute une fois, alors sans être conspirationniste, parce qu'on parlait à un moment de cette voix qui s'abîme. Ah ben moi je me suis dit, mais est-ce que finalement c'est pas lui derrière dans la scène qui chantait à la place de Johnny? Alors peut-être, je lance peut-être une petite boutade, mais non, c'est deux artistes, deux très grands artistes. Merci Johnny de nous avoir proposé ce thème qui a finalement permis de redonner un petit peu sens peut-être à des émotions, à découvrir peut-être, comme Émilie, elle aura peut-être envie d'aller écouter. Je vous propose qu'on puisse, chers auditeurs, auditrices, partir sur une chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle Je te promets.
Au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie. De mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
Après cette belle et émouvante chanson de Jenny, nous revoici à Pavillon Nomade. Nous allons retrouver les rencontres de Marie-Claude Cudry. Elle va toujours à la rencontre d'une personne qui se raconte l'auteur de Malévaux, autour de Malévaux. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Éric Giraudet. On commence par les présentations.
Les rencontres de Marie-Claude.
Bonjour, je m'appelle Éric Giraudet, je suis infirmier depuis 1993. J'ai fait une formation générale à l'époque. Il y avait encore une formation psychiatrique et une formation diplôme d'État. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans les soins somatiques et surtout dans les réanimations et soins intensifs. Jusqu'en fin 99 en France et ensuite en Suisse à partir de cette date. Et j'ai cessé les soins intensifs fin 2001 par essoufflement, par recherche d'autre chose. Il y avait une sorte de frustration dans les soins intensifs qui était ce temps qui n'était pas compté pour être auprès du patient et permettre un meilleur rétablissement par un soutien psycho-éducatif ou juste un soutien standard. Et à ce moment-là, comme j'avais à la fois un fixe et je faisais de l'intérim à côté, la patronne de l'agence intérim m'a proposé d'aller voir ce qui se passait en psychiatrie. Donc c'était un monde que je connaissais pas du tout, très très peu. J'avais fait une fois un remplacement en France en intérim, une journée, un premier de l'an, et puis c'était pas du tout significatif de ce qu'est la psychiatrie. Du coup, j'ai volontiers essayé. C'était justement à Malévaux ici, c'était en février 2002, où je suis venu une soirée, parce qu'il y avait un poste de nuit qui se profilait, donc je suis venu 3 heures observer de 21h30 à un peu plus de minuit, et là ça m'a accroché tout de suite. J'ai vu l'intérêt que je pouvais tirer de ce milieu, c'est-à-dire être dans l'échange avec le patient, et je dirais libérer presque totalement, parce qu'il y a quand même des soins somatiques, libérer des actes de soins somatiques qui sont extrêmement chronophages.
Alors, on va revenir à ce parcours, on va peut-être le faire d'une manière un peu chronologique. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la profession, le métier d'infirmier ?
Alors, ça a été au final un choix par défaut, bon, que je n'ai pas regretté par la suite, mais j'étais pas très assidu au travail personnel à l'école. J'ai vécu sur mes acquis tout le long des études que j'ai suivies, sauf plus tard. Du coup, ça a fait... Alors, j'avais de bons acquis et puis apparemment, j'étais plutôt considéré dans l'élite, surtout en mathématiques et en physique. Mais j'ai pas travaillé personnellement pour développer ça. Ce qui fait que j'ai fait 3 premières années de faculté, 2 premières années de médecine, 1 première année de biologie. Et puis, bah, évidemment, pour réussir là, il faut travailler, apprendre, refaire les choses, etc. Donc, je voyais surtout ce moment-là pour faire la fête. Et voilà, donc ces 3 premières années sont passées. Ensuite, je me suis inscrit à des concours pour l'armée, donc pour faire l'école des sous-officiers de Saint-Mexant. Et sinon, j'ai passé le concours d'infirmier à Saint-Étienne. Et puis, j'étais admis dans les 2 endroits, j'ai dû choisir. Et par défaut, j'ai choisi l'infirmerie. À cette époque, je commençais à rencontrer dans ma vie privée des gens qui ont été très significatifs dans les tournants que j'ai pu prendre à cette époque-là. Parce que à la base, j'ai fait un lycée militaire en seconde et première et qui m'avait un peu projeté vers un état d'esprit un peu de droite, voire un peu plus. Et là, après, en revenant dans le civil, petit à petit, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de réagir. Et je crois que le choix était, j'ai dit tout à l'heure par défaut, mais finalement, c'était plutôt le choix de ne pas aller dans une certaine direction. Donc en fait, cette direction militaire, je ne la voulais pas. la rigueur, l'obéissance. Et j'ai pas regretté. Alors déjà, les études ont été tout à fait sympathiques et j'ai pu passer mes 3 ans tranquillement, encore une fois sans travailler ou très peu sur un plan personnel. Voilà, j'ai fini infirmier en 93. Une autre influence dans mon choix, c'est que ma sœur est infirmière et j'ai suivi un peu son parcours. En tout cas, ce qui était derrière, c'est effectivement le lien social qui m'intéressait.
Éric Gironnet est infirmier ici à Malévo. On va le retrouver ces prochains jeudis au micro de Marie-Claude Cudré. À l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Éric.
Oui.
Vous avez travaillé aux urgences.
Oui.
Voilà.
Très peu aux urgences, un tout petit peu en intérim, mais surtout dans les soins intensifs et les réanimations.
D'accord. C'est pas difficile de pas pouvoir suivre un patient. Bon, il arrive aux urgences, après il est dirigé en médecine, etc. Est-ce qu'on a un suivi du patient ?
Alors, non, pas vraiment. On peut demander des nouvelles, des informations. On peut éventuellement se déplacer pour aller voir la personne, mais j'entends, vu l'activité que j'avais au quotidien, je n'avais pas le temps de faire ça. Et puis, de ce qu'on nous apprend dans les études d'infirmiers, c'est que on ne peut pas... Si moi je me déplace pour aller voir la personne, qu'est-ce que je vais créer ? C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas créer une relation qui va être un peu différente et qui n'est plus une relation de soins empathique, hein, peut-être que vous entendrez plus tard ce que je pense un petit peu de l'empathie, mais et on peut créer des illusions de relation auprès du patient ou de la patiente, et je pense que ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Après, ça peut se faire, mais il faut vraiment que ce soit assumé. Mais j'entends, j'ai soigné des milliers de personnes, je n'ai pas pu créer des relations amicales avec ces milliers de personnes. Donc, y a un côté, on soigne, c'est comme un jour, on se lève, on dit bonjour. Quand on va se coucher, on dit bonne nuit. On clôt, c'est un cycle. Le soin, c'est un cycle. On prend en charge, on dit bonjour. Et quand la personne s'en va, dans les soins intensifs, comme ailleurs, hein, parfois rétabli, parfois pas vraiment, on dit au revoir à ce moment-là.
À part l'armée, j'ose vous demander quelle autre profession vous auriez fait, à part infirmier.
Alors, c'est une très bonne question je ne la pose pas régulièrement, mais en fait, quand je rencontre certains métiers et certaines personnes qui représentent ces métiers et qui les pratiquent, je me dis, ah tiens, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, etc. Alors, je ne vais pas revenir en arrière, mais je pense qu'en ayant travaillé plus, il y a un métier qui m'aurait plu, c'est vétérinaire. J'aime beaucoup les animaux.
Comme moi.
Oui. Alors voilà, biologiste, c'est très bien aussi. Menuisier, un métier que j'aurais adoré faire, c'est menuisier. Travailler le bois. Je ne sais pas vraiment. Je crois que j'ai été pris par une éducation qui m'a guidé vers des études générales. Et puis finalement, peut-être que j'aurais dû me diriger vers des études manuelles aussi. L'aspect manuel est quelque chose de très important. Quand j'entendais parler de la reconstruction de la cathédrale de Paris et tous ces métiers, tous ces gens qui étaient là pour reconstruire ce bâtiment, je pense que j'aurais aimé, par exemple, être compagnon, faire le compagnonnage dans les charpentes, dans la roche aussi, tailler la roche, bâtir, etc. Alors c'est très hétéroclite, mais voilà un petit peu les métiers que j'aurais pu faire si je n'avais pas été infirmier.
Merci beaucoup.
Et je dois rajouter quand même que je suis très content d'avoir choisi ce métier d'infirmier et voilà.
Merci beaucoup, Eric.
Merci à vous.
Bah, d'ailleurs, parlons-en un petit peu de ce métier d'infirmier. Merci Eric, en tout cas, d'être présent. Hein. C'est la première fois qu'on a un des interviewés dans les rubriques de Marie-Claude avec nous. On va pas trop spoiler la suite de l'interview. On sera en tout cas à l'écoute sur les prochaines éditions de faire plus votre connaissance et votre parcours. Mais j'aimerais m'adresser là aux gens qui sont autour de nous. Infirmier, c'est un métier quand même qui pendant des années était quand même peut-être avec une certaine aura de vocation venue peut-être un petit peu de ce côté. Les premières, c'était les nonnes hein, qui étaient en temps de guerre, qui venaient soigner. Alors on a comme ça, mais autour de la table, vous qui avez été peut-être déjà en contact avec des personnels médicaux, d'un point de vue infirmier, si on devait se dire, c'est quoi l'infirmier idéal pour vous? Il serait comment? Il se représenterait comment? Alors, Émilie, allez-y, prenez la parole.
Alors, il faut qu'il soit à l'écoute, qu'il y ait de la bienveillance, qu'il nous explique bien les choses, de comment ça se passe, enfin, tout ça. Qu'il soit disponible aussi. Et puis, voilà, je pense que... Je ne sais pas quoi rajouter.
Bah, c'est déjà une bonne attente et j'espère que dans les rencontres que vous avez faites tout au long de votre parcours, vous avez pu toucher à cette sensibilité. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, hein, que ce soit dans les pavillons ou qui nous écouteront après, je rappelle que l'émission est rediffusée en direct déjà maintenant, mais en rediffusion sur les ondes de Pavillon Nomade, sur pavillonnomade.ch, vous retrouvez l'émission. Daniel, pour vous, quand on se fait l'image où qu'est-ce que vous attendez-vous quand vous êtes accueilli par un infirmier dans un hôpital, que ce soit somatique ou psychiatrique ou dans d'autres domaines? Vous attendez à quoi et qu'est-ce que vous souhaitez d'un infirmier ou d'une infirmière, bien sûr?
Bon, tout d'abord, je voulais dire, je suis infirmière. Et puis, j'ai arrêté cette profession pour me devenir secrétaire. Puis, je me suis occupée de mes enfants. Mais ce que j'attends, moi, à l'infirmier, c'est déjà qu'il soit plus nombreux dans un service.
Ouais, alors là, vous avez appel à tous nos politiciens, parce que je pense que c'est une question déjà politique, hein, d'avoir des budgets. On rentre dans une période de récession, on le sait, hein, dans le canton du Valais. Donc oui, c'est vrai, d'avoir un petit peu plus de dotation infirmière, hein, pour rappel, hein, dans tous les autres cantons, ici, romands, les unités, c'est 18 patients pour à peu près la même dotation en infirmiers et en médecins. Ici, à l'hôpital du Valais, et dans le Valais, à l'heure actuelle, on est encore à 24, voire 25 patients pour la dotation. Alors, je sais que dans la construction en devenir d'ici 3 à 5 ans, nous sommes en train de penser pour refaire vivre des unités plutôt de 18 lits, parce qu'effectivement, on voit bien que, et vous le décrivez bien, un manque d'infirmiers présents. Par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, peut-être, c'est, on dit souvent que la durée de vie d'une infirmière ou d'un infirmier, c'est 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez arrêté?
J'ai rencontré mon mari, qui était physiothérapeute, en même temps que je finissais mon stage. Et puis, je suis devenue sa secrétaire. Et je voulais des enfants. Parce que, pour moi, avoir des enfants, c'était une priorité. Et voilà.
Donc, c'était finalement peut-être en lien avec ces nombres d'heures. Ça reste quand même un métier qui est difficile. On dit souvent qu'il y a des métiers dans l'hôtellerie, dans la restauration. En règle générale, ce sont des horaires. On fait des horaires coupés, on travaille de nuit. Finalement, c'est des fois difficilement compatible. Ça l'est, hein, parce que je remercie tous les infirmiers et personnels soignants en général, parce que concilier ce travail-là avec une vie de famille, c'est quand même pas évident.
C'est pas du tout évident, mais ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai peut-être aussi pris par défaut cette profession, parce que ma mère voulait être infirmière, et j'ai cru que je devais le faire à sa place, parce qu'elle avait traversé la guerre, et les infirmiers étaient vus comme des sauveurs, et quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était pas tout à fait ma place. Je voulais être enseignante, et ma fille est devenue enseignante.
En tout cas, on a un point commun, c'est que vous avez épousé un physio.
Oui.
J'ai épousé une physio, mais je n'ai pas voulu être sa secrétaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en faut tout pour être heureux, parce que finalement, quand on entend Eric, quand il s'exprime, on sent qu'il y a une passion qui est là. Moi, j'ai décidé de faire aussi ce métier-là parce qu'il y avait une passion derrière. Donc finalement, on trouve ça, chacun, nous tous, on trouve sa place du moment qu'on est passionné par quelque chose. En tout cas, il en faut peu pour être heureux. C'est la chanson que je vous propose avant de revenir sur notre dernier thème.
Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui!
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux.
Il en faut peu pour être heureux. En tout cas, ça nous a mis un petit peu en ébullition. On a vu les gens dandiner un petit peu sur les chaises, à l'instar de ce magnifique film de Walt Disney, où je crois que c'est Balou, hein, si je ne me trompe pas. Hein. C'est Balou, hein, pour ceux qui écoutent. Et qui, bon, ça va peut-être envoyer à certains à très loin, hein, parce que je ne sais pas quelle année c'était. En tout cas, cette musique, moi, ça m'a donné un petit peu peps. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Aujourd'hui, je voulais proposer le thème de l'injustice.
Alors, thème hyper important, hein, l'injustice. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de nous proposer ce thème aujourd'hui?
Parce que pour moi, c'est la base de tous les problèmes sur la planète. C'est la racine de tous les autres problèmes. Alors, par exemple, ici, on peut parler d'injustice... au niveau salaire, les salaires sont injustes, au niveau de la santé, au niveau par exemple de l'apparence physique de certains ou toute autre chose. L'injustice, par exemple, les personnes qui naissent dans une famille désorganisée ou des enfants qui sont aimés de leurs parents, les vies seront très, très différentes. Et je voulais surtout poser la question à quelqu'un de ce qu'il pense de l'injustice.
Alors, la table est ouverte. Alors, qui a envie de faire cette déjà premier échange avec Daniel sur ce que représente l'injustice pour lui? Christophe, est-ce que vous avez envie de... Non. Alors, Eliane.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. On traverse tous, dans notre vie, des moments d'injustice. Et il faut arriver, c'est très difficile, à relativiser cette injustice et faire en sorte que ça ne nous atteigne pas dans notre santé. Et quelquefois, il faut quelques années pour que la balle retourne contre le méchant.
C'est vrai, avec le monde de chaos. Daniel.
En fait, là, c'est la loi de la cause à effet. Elle ne retourne pas toujours contre le méchant. Mais ce n'est pas une nécessité. L'idée, c'est de savoir pourquoi elle existe et comment on l'entretient.
Oui, comment on l'entretient ? Mais d'ailleurs, quand on parle d'injustice, ça fait appel au manque de justice. Finalement, la justice, c'est quoi ? Parce que avant de si on fait le parallèle entre injustice et la justice, c'est quoi ? C'est quoi ce qui est juste ? C'est quoi qui est injuste ? Alors, il y avait quand même tout à l'heure quelque chose qui m'interpellait. Vous avez parlé de finalement l'injustice face au salaire. Est-ce que c'était le raisonnement de se dire, par rapport au métier dans lequel vous avez exercé, hein, est-ce que finalement, pour le métier que des fois qu'on fait, on est sous-payé, ou est-ce que vous parliez de l'injustice finalement qu'on peut encore rencontrer aujourd'hui, des salaires entre les hommes et les femmes pour le même métier? On a encore des inégalités, hein, parce que quand on parle d'injustice, on parle d'équité, inégalité. Est-ce que c'est ça que vous y référence?
Non, c'est un autre niveau. Je comprends pas que certains cerveaux méritent de gagner des milliards de dollars par année et d'autres gagnent, je sais pas ce qu'on appelle le SMIC. Et je vois pas pour quelle raison cette répartition de l'argent est considérée comme normale. Mmh.
Alors, je vois qu'il y a des têtes qui se hochent. Moi, vous savez, ici, Marie, à Pavillon Nomade, quand une tête se hoche, c'est qu'il y a certainement débat à faire. Alors, on va vous donner un micro. Quelle était finalement cette ambivalence dans laquelle vous étiez peut-être, ou alors simplement peut-être dans ce sentiment d'injustice? Comment vous le représentez, vous?
En fait, c'est un sujet éternel. Il n'y aura pas de justice dans ce monde. Moi, je ferais quand même la différence entre la justice et l'équité. En tout cas, entre l'égalité et l'équité, je trouve que de temps en temps, on cherche une égalité qui n'existe pas, puisqu'on a chacun des qualités et des dons particuliers à la naissance. Et heureusement que tout le monde ne veut pas être infirmier ou menuisier, parce que sinon, on serait bien embêté. Voilà. Mais du coup, je trouve que comment est-ce qu'on arrive à pratiquer de l'équité avec ce que chacun a besoin? Après, l'injustice, elle sera éternelle, malheureusement.
Alors, Albert Jacquard, il le disait, je le cite souvent à Pavillon Nomade, il dit « Personne n'est égaux de être et naître ». Alors oui, des fois, c'est peut-être injuste d'être, on n'est pas, ou comme disait Ayam, on n'est pas nés tous sous la même étoile. Ben oui, c'est vrai, des fois, c'est malgré nous, hein, quelqu'un qui... moi, souvent, quand on parle d'injustice, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Moi, je suis adopté, j'ai été adopté à l'âge de 5 ans, j'ai grandi en Colombie, j'ai eu la chance de pouvoir être adopté par une famille où j'ai eu manqué de rien. Le frigo était toujours rempli, alors que deux étages en dessous, les yaourts chez moi, on les cherchait. Chez le voisin, ils étaient direct devant moi. Donc, il y avait ce sentiment aussi de se dire, c'est injuste, mais en même temps, oui, c'est aussi la réalité de la vie. Mais cette injustice, sur le moment que je vivais comme ça, de me dire, mais moi, j'ai eu de la chance, c'est pas de l'injustice, mais comme ça, finalement, je l'ai mis à profit pour... finalement pour vivre d'autres choses, pour faire ce métier-là. Mais quand on parle de sentiment d'injustice, moi c'est peut-être ça que j'aurais envie peut-être partager avec vous. Des fois on a le sentiment, on a l'impression que dans un entretien ou que dans un échange, on se sent floué, pas compris, où on a un sentiment d'injustice. J'ai envie de dire, ne restez pas avec ça. Ne restez pas avec ce sentiment. Allez le parler, allez l'exprimer, allez voir vers les gens, dire, écoute, moi, c'est un peu injuste, là, parce que tout à l'heure, on était ensemble, et là, ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait, moi, ça m'a touché, je trouve ça, je me suis senti injustement floué. N'ayez pas peur d'aller dire, ne restez pas avec un sentiment, parce que ce sentiment, au bout d'un moment, il va grandir, il va être là, il va vous envahir votre esprit, on parle de rumination, hein. Ne restez pas avec ça. Alors, je ne sais pas, autour de la table, au niveau de ce thème de l'injustice, est-ce que quelqu'un a envie de faire faire part de son, parcours personnel, de témoigner d'un parcours d'injustice ou de simplement poser des mots sur ce que l'injustice représente pour lui. Eliane.
Pour rebondir à ce que vous dit Jimmy, je dirais quand on sent cette injustice et qu'on a la possibilité de réagir, il faut, à mon avis, toujours commencer par « moi, ce que vous m'avez dit, ça m'a fait mal » et pas attaquer la personne. Comme ça, nous, on a évacué notre incertitude, puis l'autre se débrouillera comme il veut.
Mais vous avez raison, c'est vrai de le rappeler quand on va, c'est pas faire des reproches, mais quand on va exprimer le sentiment à quelqu'un, c'est mieux de dire « je me suis senti incompris » que « tu m'as pas compris, t'as pas voulu me comprendre », parce que là finalement on crée un fossé où on n'est plus dans la dialectique. La dialectique, c'est finalement d'être dans la discussion avec l'autre, d'échanger avec l'autre. Si on est déjà dans l'attaque pour faire passer un sentiment qu'on a vécu, on va faire que c'est possible. Alors des fois, il y a des gens qui arrivent à mettre la distance. Ou sinon, il y a un risque de ce qu'on appelle la montée en symétrie. C'est que l'autre, il va vouloir se défendre, et vous allez rebondir, puis au bout d'un moment, ça va monter, puis finalement, à la fin, tout le monde va te crier dessus, puis le problème ne sera pas réglé. Donc vous avez raison, des fois, ça commence déjà par dire « je », on parle en « je », on met aussi ce qu'on appelle propre à l'affirmation de soi. Hein. L'affirmation de soi, ce n'est pas quelque chose d'inné. Hein. On n'est pas en étant affirmé, mais quand on parle d'être affirmer, on dit souvent que on dit je, on met une émotion et quelque chose de clair et de court. Je vous propose en tout cas de faire peut-être l'expérience un jour de ce partage-là autour de finalement qu'est-ce qu'est l'affirmation de soi. Ça pourrait être un des thèmes, un des futurs thèmes proposés. On arrive gentiment à la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour. Merci pour tout ce moment de partage, cette qualité d'échange. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec une chanson de Saez qui s'intitule Mon européenne, voilà. Pourquoi j'ai dit européenne? À bientôt.
Les profits des religions, les pop putains du pognon, les vents du nord ou d'ouest, les vents du sud ou de l'est, les sans-abri à la rue, elle est toujours peine perdue. Les gitanes, les profanes, les cons, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières, elle est contre-totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo. Mon européenne, c'est pas la Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève, tu sais moi, mon européenne. Elle a pas vraiment de frontières, son corps c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois, tu sais mon européenne à moi. Elle est coupon ras sur l'épaule, elle est tatouage de la. Elle est accordéon sanglot, elle est accorde-moi un tango. Elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine. Elle est contre l'union bancaire, elle est mes révolutionnaires. Elle est potamimi pinson, elle est roumanie sans pognon. Elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi. Elle est pas médiatique je crois, elle est pas politique bourgeois. Elle est paysanne au combat, elle est partie quand elle boit, elle est ouvrière licenciée, c'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro, elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine, elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque, elle a des airs des italiques. On dirait Paris à Venise, qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon européenne, c'est pas Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi mon européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande.